création
on air.
On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Afghanistan, Libye, Mali, Centrafrique sont les pays d'où ils reviennent. Pauline Mocor a commencé à s'intéresser à leurs rêves quand elle préparait un livre, La guerre et après, aux belles lettres. Selon elle, beaucoup ont des difficultés à dire ce qu'ils ont fait et vu sur les terrains de guerre. Ils doutent que nous comprenions quelque chose. Ils ont peur d'être jugés, mais ils en ressentent la nécessité. Ils passent donc par le récit de leurs rêves, leurs flashs, diurnes et nocturnes, leurs apparitions, pour nous faire approcher la guerre qu'ils ont faite. Il est recommandé de mettre un casque sur ses oreilles pour plonger avec Pauline Mocor et Marie-Laure Ciboulet dans les rêves des soldats, création On Air.
Des yeux. Des yeux en amande, ourlés de cils bruns et longs, comme soulignés d'un trait de colle. Des yeux kaki, aux reflets gris treillis. La pupille se dilate. Plus je les regarde, plus elle grossit. Elle mange l'iris. Va finir par exploser si je ne détourne pas le regard. Mais je ne peux pas. La pupille me fixe. Je suis lié, je veux me sauver, me détourner, courir sans me retourner. Les yeux me tiennent. Ils m'entourent dans une pièce carrée. Des yeux sur chaque mur projetés. Je suis cerné. Des yeux me fixent, sans ciller. J'ai beau fermer les miens. Ils sont toujours là, les yeux. Je les rouvre, encore là. Les yeux ne me lâchent pas. Quand je dors, ils sont là. Quand je mange, ils m'observent déglutir. Quand je marche, les yeux me collent aux Rangers. Je fixe un point au sol, à 2 mètres. Je ne relève pas la tête pour ne pas les croiser. Je voudrais me cacher, disparaître, qu'ils cessent de me juger. Ils savent tout ce que je pense. Ils savent que je ne serai jamais un vrai soldat, un gars courageux. Ils savent que je suis là à défaut d'autre chose, parce que je ne suis jamais allé au bout de rien. Lâcher la fac, aucun diplôme. Ils savent que je suis ridicule. Je suis là parce que je n'ai pas su me concentrer quand il fallait. Parce que je n'ai pas su comprendre ce qu'on voulait m'apprendre. Je n'ai pas su respecter les consignes. Je n'ai pas su éteindre ma console pour aller dormir. Je n'ai pas su rentrer après la première partie. J'ai fait durer. J'ai découché. Les yeux sont là.
J'ai envie de les crever.
Arrête de regarder.
Pourquoi?
Qu'est-ce que je t'ai fait?
C'était la règle.
Tu as joué.
Prends tes responsabilités.
Je n'y suis pour rien.
Arrête.
Je ne sais même pas qui a tiré. On ne peut jamais être sûr avec le FAMAS. On défouraille dans les buissons parce qu'on a vu bouger. Parce que vous avez commencé. Quand on a le temps, on vient constater les dégâts. Ce coup-là, le dégât, c'est toi. Tu es au sol, je m'approche. Ma Rangers à droite de ta joue. Tes yeux me fixent. Est-ce que tu me vois? J'ai oublié ton corps. J'ai oublié ton visage. Seuls tes yeux restent. Ils deviennent vitreux, comme les globules blancs, bleus, opaques des poissons sur l'étalage. Je vois tes sourcils froncés, Ils se rejoignent presque. L'arête de ton nez, ta peau tannée, voilée de poussière de sable. Le cadre s'arrête là. Un plan serré western, sur les yeux de l'adversaire au moment du duel final. Hier, j'étais au ciné. Un visage en gros plan. Tes yeux sont venus se superposer. Je me suis détourné vers la lumière verte sortie de secours. Je ne supporte plus aucun regard. Obscène. Dès qu'un visage est filmé de trop près, ça m'insupporte.
Dans les rêves des soldats, Brice ou l'insurgé de Camoche, Frédéric à Spinboldac. Pauline Mocor, Marie-Laure Ciboulet.
Si ce n'est le meilleur hélicoptère d'attaque au monde. Il n'a aucune autre fonction. On ne peut pas transporter d'autres personnes, on ne peut pas transporter du matériel. Il y a juste la place pour l'équipage et les munitions. Et c'est un cockpit très petit. On n'a pas beaucoup de place. Une fois qu'on est installé dans le siège avec tout l'équipement sur soi, le gilet pare-balles avec toutes les munitions, enfin, vous êtes installé dans votre siège bien serré. En fait, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes entouré par toute cette machine, entouré par tout ce son. Et en fait, vous êtes dans une bulle et vous vous sentez absolument invulnérable. Ce qui est bien sûr une fausse impression. Mais il y a vraiment ce sentiment d'invulnérabilité qui a son importance. J'y viendrai par la suite. Et donc, quand on décolle de nuit, finalement, on est dans le noir du cockpit, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est allumé. Il y a quelques petites lumières sur les écrans, les boutons qu'on a face à nous. Et c'est surtout une ambiance un peu surnaturelle, parce que à travers la visière qu'on a devant les yeux et à travers l'écran qui renvoie la vision thermique, on voit tout en vert. Alors c'est du monochrome vert, mais qui rend une image un petit peu différente. On voit d'autres choses, parce que c'est pas la vision normale, mais la vision de la chaleur. Donc on reconnaît les contours d'un homme, d'un véhicule, mais on le voit pas de la même façon. On arrive très rapidement à dépasser cette ambiance un peu étrange, et le cerveau fait tout à fait le lien entre ce qu'on voit en vert et ce qu'est la réalité. Là aussi, ça a son importance pour le tir qui va venir. Le tir, il a un son très, très lourd, mais qui n'est pas strident comme les anciens hélicoptères. C'est un claquement très fort, mais avec un bruit très sourd de la turbine. Même le bruit, en fait, renvoie une image de puissance, finalement. Ça vous prend un peu dans les tripes, ça résonne un peu à l'intérieur de vous, en tout cas quand il passe assez proche. C'est assez impressionnant. Et dès la mise en route, nous on le sent aussi, hein, encore plus quand on est dedans. Dès que les moteurs se mettent en route et que le rotor se met à tourner, vous avez cette ambiance très lourde de claquement permanent et puis de bruit permanent qui vous enveloppe. D'ailleurs, quand on est à l'intérieur, entre ça, qui étouffe tout le reste des sons, on n'entend pas, par exemple, les tirs du combat qui viennent du sol. Donc on ne se rend pas compte, bien souvent, quand on nous tient dessus, parce que si on ne voit pas la balle qui siffle ou la roquette qui s'élève, on ne va pas se rendre compte parce qu'on n'entend pas le tir. Donc vous êtes dans une bulle, en dehors de la réalité quelque part. Donc c'est assez étrange, mais on s'y habitue très vite.
Cours, Anna. Ne te retourne pas. Cours. Je suis là. Pas normal comme la nuit est claire. La lune haute dans le ciel. Sa lumière blanche et froide de traîtresse. Elle est du côté de ces chiens d'occidentaux, ma parole. Planque ta calache sur ton patou, mon frère. Elle risque de renvoyer des reflets métalliques. On se ferait repérer. Depuis 2 semaines, ils occupent la vallée de Bédraou, ils sont partout. Américains ou français, même vermine. Pour un peu, on se sentirait plus chez nous. Ne t'en fais pas, Einar. On est peut-être moins bien équipés qu'eux, mais... on la connaît par cœur, notre passe de Camoche. Ils ont beau nous observer dans leurs jumelles infrarouges, jamais ils connaîtront aussi bien que nous tous les sentiers. Nous y avons grandi. Nous connaissons les passages secrets, les raccourcis. Cours, te laisse pas gagner par la peur. Cours sans réfléchir. Comme les biquettes qu'on élevait, gamins. On les faisait crapahuter sur les crêtes, les pierres roulées sous leurs sabots, comme des grelots. On avait repéré le groupe de soldats français installés sur le piton rocheux, surplombant la passe. De là-haut, ils croyaient dominer. Ils pensaient nous contrôler. Mais ils savaient pas que nous savions. Un villageois nous avait informés. Le chef nous a réunis. 20 gars. Parmi ceux qui ont grandi ici. 20 de ses plus fidèles combattants pour gravir le piton par la face nord et déloger les Français. On a commencé l'ascension par la piste escarpée. On les a arrosés de tirs de mitrailleuses lourdes, sans qu'ils puissent riposter. On entendait au loin la patrouille bourdonnante des Apaches. Les hélicos américains, gros frelons métalliques pétaradants. Ils se rapprochaient, essoufflaient, s'éloignaient. Ils nous cherchaient mais ne nous voyaient pas. On sait être discret. On sait se transformer en rocher.
Décolle. Je pense qu'il est... Il est peut-être minuit ou 1h du matin. Je parle d'une base française, la base de Nejrab, qui est dans la vallée de la Capissa. C'était la base française la plus importante, là où était le poste de commandement de la brigade française. Et on décollait en direction d'une vallée, la vallée de Bédraou, où était... positionner un régiment de soldats français qui était donc en contrôle de zone là-bas. Et on prend contact avec les troupes au sol, et on prend contact notamment avec un groupe de forces spéciales qui était sur un pic, un des pics qui entourait la vallée, donc sur un point haut pour pouvoir bien observer, qui nous disait qu'ils étaient harcelés sans cesse par des insurgés qui avaient une mitrailleuse. Des renseignements disaient que une quinzaine d'insurgés allaient monter à l'assaut de ce pic pour combattre ces forces spéciales, donc il fallait qu'on regarde pour essayer de les trouver.
Quand la nuit est tombée, les Apaches ont été relevés par la patrouille des Tigres français, équipés de moyens de vision nocturne. On est posté à flanc de falaise. Le terrain est escarpé. On voit les reflets d'argent de la rivière qui serpente au fond de la vallée encaissée. Les hélicos ont très peu de marge de manœuvre dans ces gorges étroites.
On a sans arrêt un micro devant la bouche, avec le casque qui nous permet de parler avec le pilote et de parler à la radio. Et en fait, on peut sélectionner plusieurs radios. Et avec le pied, on appuie sur une sorte de palette qui nous permet de parler sur la radio qu'on a prévue. Donc après, il y a des procédures très militaires pour contacter quelqu'un. Alors, je me rappelle plus quels étaient les indicatifs des troupes au sol. Le mien, c'était Tiger 14. Un tel de Tiger 14, j'arrive sur zone, quelle est votre situation ? Et nous répondent en disant, ben voilà, on est tant de personnes sur telle position, la situation est calme pour le moment, on a été harcelé toute la journée par un groupe d'insurgés avec une mitrailleuse lourde, ils étaient dans telle position, et voilà, on vous demande de reconnaître les zones où ils pourraient se trouver, donc en fait d'aller voir ces positions et d'essayer de les trouver.
À l'entrée des gorges, on voit le village, en contrebas. On a bien grimpé. Si on se retournait, on verrait la lueur du feu dans la cour. Le feu sur lequel est posée la bouilloire en fer blanc, pour le thé. Elle chauffait quand on est parti. Mais te retourne pas. Cours. Cours, Hénard, cours.
Et en fouillant, chaque maison, il y avait des petites maisons, vous imaginez des petits villages, un peu comme des... C'était une région assez montagneuse, un peu comme des pueblos mexicains. Des petites maisons de terre. Et puis dans l'une d'elles, en fait, devant la maison, je vois un rassemblement d'une au moins une vingtaine d'hommes. Ce qui correspond un petit peu à ce qu'on me demande de chercher, mais bon, je vois pas d'armes particulières.
On a quitté la maison du chef avant que le soleil ne se couche. Il nous avait réunis tous les 20, les gars de Camoche. Il nous a offert à manger. Il nous a dit qu'on allait les faire basculer des pertes dans le rang des Occidentaux. Il nous a désignés, nous 5, parce qu'il a confiance en nous. Il a grandi avec nous. Il sait qu'on connaît le sentier aussi bien que lui. On s'est réparti la mitrailleuse lourde, son trépied, les munitions, et 2 lance-roquettes, 3 paquets lourds et longs, planqués sous nos patous. Les 2 autres portent les calages pour nous défendre en cas d'attaque.
On survole sans arrêt, on est au-dessus, on est à peu près à 300 mètres de hauteur de, par rapport au fond de vallée. En fait, mon pilote fait des grands cercles pour que ma caméra puisse sans arrêt observer cette maison. Bah, imaginez, vous voyez tout en vert, donc une maison rectangulaire, une maison de terre. Et puis juste devant, vous voyez des silhouettes d'hommes. Vous discernez les bras, les jambes, tout. Vous voyez tous les mouvements, vous arrivez à compter le nombre d'hommes. Et une fois qu'on avait trouvé cette vingtaine de personnes qui étaient rassemblées, ce qui était un petit peu louche à cette heure-là, il y en a 5 qui s'en sont détachés. Et ces 5 personnes sont parties dans une gorge assez profonde. Et elles portaient des fardeaux à l'épaule. Et en fait, c'était bien une mitrailleuse lourde qui était démontée et un petit peu dissimulée dans des sacs ou des fagots de bois, je ne saurais jamais exactement. Et quand on était sûr de ça, c'est grâce à un drone qui est venu survoler la position qu'on a pu avoir la certitude que c'était bien de l'armement. On m'a donné l'ordre d'attaquer ces hommes-là.
Les tigres sont revenus. Ils bourdonnent le long de la paroi, la frôlent. Leur bourdonnement résonne, assourdissant. On change de trajectoire. On décide de plonger dans la gorge, là où c'est trop étroit pour qu'ils nous suivent.
On n'a aucun feu allumé, on est absolument invisible pour quelqu'un qui n'a pas de dispositif de vision nocturne. Donc pour eux, on était totalement invisible, ils entendaient le bruit, mais ils ne savaient même pas quelque part si je les regardais ou pas. À ce moment-là, je ne pense pas que c'était angoissant pour eux. C'est venu après.
Le bourdonnement s'éloigne, s'épuise. Ils abandonnent.
Ils se sont enfoncés un petit peu dans la gorge. Et quand j'ai reçu l'ordre de les éliminer, ils étaient un peu plus loin, beaucoup plus loin.
10 minutes ont passé. Nous avons bien progressé au loin à l'est du village. Ils ne devraient pas nous retrouver. Ils ne peuvent pas deviner le raccourci qu'on a pris. On les entend tourner au-dessus de notre ancienne position. Ils nous cherchent. Ce sera pas pour ce coup-là, les gars. Vos hommes sur le piton sont faits comme des rats. On va s'en approcher avant que vous ne nous localisiez. Demain ou dans 2 jours, le chef nous félicitera. On mangera et on aura droit à un peu de repos. Le thé brûlant nous réchauffera. Demain, il lavera le goût de pierre effrité dans la gorge.
Les rechercher. Et là, quand on les a retrouvés, bien sûr, là, ils ont compris que c'était pour eux, puisqu'ils étaient beaucoup plus loin dans les gorges, ils partaient dans une autre vallée.
Le bourdonnement revient.
Habituellement, on n'allait pas dans ce coin-là. Donc,
pas d'inquiétude, on se dit. Il reste lointain.
Et donc, quelque part, si on était au-dessus d'eux, c'est que...
On continue à avancer, on court plus vite. Le bourdonnement se rapproche.
Ils savaient très bien que c'était pour eux, et ils sont cachés.
Hénard panique. Il vient de voir un point de lumière courir sur la paroi, il en est sûr. On est repéré.
Quand on les a retrouvés, en fait, je n'en vois que deux.
Le tigre nous vise au laser.
Les trois autres étaient visibles par le drone, mais ils étaient debout contre une paroi que je ne pouvais pas voir. Parce que j'ai un angle de vision très réduit, puisque c'est une gorge resserrée.
Il nous traque, nous suit à la trace. Il ne nous lâchera pas.
En revanche, j'en vois deux qui sont allongés sous une sorte d'éperon rocheux. Et en fait, je vois que leurs jambes. Et entre les deux jambes, la mitrailleuse.
On se plante contre la paroi rocheuse. Un renfoncement. Là où on s'abritait avec les chèvres quand l'orage éclatait. Avant qu'on ait eu le temps de rentrer au village. Le tigre repasse. Rien. Il nous a pas trouvés, tu crois ? Hénard, tu ne dis rien. Ou tu ne veux pas dire que tu as vu le laser te frôler ? On s'allonge. On sent les cailloux imprimer leurs pointes dans nos côtes. La douleur nous ferait presque plaisir. Comme une caresse aiguë. Elle nous rappelle que nous sommes vivants.
Et je me souviens d'un moment d'hésitation. C'était, voilà, là je commence à comprendre que ça va être ma première fois, quelque part. Et j'ai eu besoin d'être rassuré, en quelque sorte. J'ai eu besoin qu'on me confirme que c'était bien un ordre. J'ai eu besoin d'une petite aide psychologique. Donc j'ai rappelé le poste de commandement de la brigade et j'ai demandé, vous confirmez, j'ai l'ordre d'ouverture du feu.
Le tigre revient, tournoie, ses pales déchirent la nuit. Leur claquement sature l'espace, ricoche contre la roche. Tu n'hésites plus, Hénard. Tu m'enlaces en serrant fort ton bras dans mon dos, ma tête contre ta poitrine. Le métal froid du lance-roquette entre nous. Malgré le bourdonnement assourdissant, j'entends ton souffle syncopé. Je le sens plus que je ne l'entends, contre moi, et l'odeur de la peur, acide, mélangée au musc piquant de ton manteau de laine. Tu transpires l'horreur que tu ne veux pas dire. Ou bien, est-ce mon odeur que je ne reconnais pas ?
Vous confirmez, j'ai l'ordre d'ouverture du feu. Et on me dit, bien sûr, mais tout est ouvert, vous avez l'ordre d'ouvrir le feu. Et donc, voilà, avec mon pied, j'engage l'armement. En fait, on a une pédale au pied qui permet de faire passer le canon du tigre. En fait, c'est comme si on l'armait. Donc, ce qu'on vise maintenant, si on appuie, ça, les obus partent.
Le bruit infernal du tigre autour de nous en spirale. Vautour. Il attend. Prend son temps.
Donc, j'engage mon canon.
Il ne partira pas avant d'avoir obtenu ce qu'il attend.
Et à ce moment-là, mon pilote est en train de tourner de façon un cercle très serré. On est pratiquement sur la tranche avec l'hélicoptère. Parce que, étant donné que la gorge est très serrée, voilà, il faut regarder vers le bas sans arrêt. Donc on fait des cercles sur la tranche. Et je dois être à même pas 50 mètres de ces deux insurgés. Et donc j'ai mon viseur sur leurs jambes.
L'hélico s'éloigne puis revient vite. Il n'hésite plus. Droit sur notre paroi. Crépitement.
Et j'appuie trois fois sur la détente. Quand j'appuie une fois, il y a cinq obus qui partent. J'appuie trois fois. Je vois mes obus partir. En fait, on les voit en thermie, là, sur le camion thermique. On voit des taches noires partir. Et puis un énorme voile de poussière dès qu'ils arrivent. En fait, on voit l'explosion de l'obus. Et puis de la poussière. On continue à tourner. Donc j'ai envoyé 15 obus. Mais je vois que de la poussière, je me dis que ça suffit.
Douleur blanche. Notre sang est partout. On ne comprend pas. On devrait être mort, mais ça continue. Les cris des frères, au loin dans le brouillard. Le tigre revient. Bourdonnement. Le tigre tire à nouveau. Crépitement. J'ai très chaud, mais j'ai pas mal. Ou à peine, dans le mollet gauche.
Finalement, l'image qui me hantera toujours, c'est ce que j'ai vu quand la poussière est retombée. Là, encore une fois, même si on voit de façon verte, monochrome vert, le cerveau fait tout à fait le lien avec ce que c'est. C'est-à-dire que je voyais des petites taches vertes un peu partout sur les rochers, sur... En fait, c'est simplement des morceaux de chair qui sont éparpillés un peu partout. Parce que l'obus du tigre, il est perforant. Donc, quand il rentre dans la roche, vous avez non seulement les éclats de l'obus, mais vous avez des éclats de roche qui partent dans tous les sens. Donc, ils ont été littéralement déchiquetés. À la place des deux jambes, enfin des deux paires de jambes, voilà, il y avait des morceaux de chair. Et sur le coup, c'est comme si on met ça de côté. C'est une information qui rentre. Mais on est dans l'aspect technique de la chose. On vient de réaliser un tir, on rencontre deux insurgés éliminés, j'arrive pas à voir les autres, on nous rappelle à la base, donc on rentre à Nejrab, là où on était basé pour cette nuit-là. Et puis c'est le processus de compte-rendu, donc il y a un peu de paperasse à faire pour expliquer la situation, tout ce qu'on a fait. Et finalement, il y a cette sorte de jubilation. Ça peut paraître un peu choquant, mais voilà, c'était ma première fois, j'ai ouvert le feu, on a réussi la mission, on a gagné le duel guerrier. C'est nous qui les avons eus, c'est pas l'inverse. Donc il y a cette sorte de jubilation qui est très primaire, mais qui est là. Une sorte de fierté toute militaire, en fait. Même si les armes sont pas forcément réparties de façon égale, dans ce cas-là. Mais finalement, c'est un peu plus tard que j'ai réagi à tout ça. En fait, peut-être 2 ou 3 semaines après.
Le tigre revient. Bourdonnement. Le tigre tire à nouveau. Crépitement, le tigre revient. Sang. Chair projetée. Le tigre tire à nouveau. J'ai très chaud, mais j'ai pas mal. Crépitement. Ou à peine. Dans le mollet gauche. Sang. Bourdonnement. Crépitement. Sang. Chair. Je transpire. Ma chemise me colle le long du dos. Des frissons. Je cherche à respirer. Il faut que je sorte. La poussière de la roche pulvérisée m'étouffe. Respirer. Déchirer ma chemise. Me sauver. La douleur au mollet. Crépitement. Crépitement. J'ai perdu le sens du haut, du bas. Une trappe s'est ouverte. Le monde m'a avalé. Je cherche à tâtons la roche. Retrouver mon orientation. J'agrippe quelque chose. Souple, pas froid. Je suis dans un lit. C'est mon lit. Sous la tente. Dans la base de Kaboul. C'est la pluie sur la toile de tente que j'entends.
Allongé dans mon lit, donc à Kaboul où étaient basés tous les hélicoptères, et c'était une soirée où j'étais de repos, donc j'étais tranquillement allongé, et j'ai été totalement happé par une vision, une sorte d'hallucination. Je me suis retrouvé allongé dehors, sous un rocher, et à côté de moi il y avait un ami, un camarade, et entre nous deux il y avait une arme, mais je sentais le froid de l'arme sous ma main. J'entendais un hélicoptère qui tournait au-dessus. J'avais une peur bleue parce que je savais ce qui allait arriver. Et j'entendais ces 5 coups de canon à chaque fois détonner. Et je sentais les obus m'arriver dans les jambes. Et à ce moment-là, ça reprenait. Et je me retrouvais allongé, sentant la peur, sentant la transpiration, l'arme à côté de moi, mon camarade à côté de moi, sous le rocher, et l'hélicoptère au-dessus, etc., etc. Et je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 2 ou 3 heures. Et j'ai vécu la scène à leur place pendant ces 2 ou 3 heures. J'étais vraiment prisonnier de cette hallucination, mais qui était tellement réelle. Pourtant, j'étais les yeux ouverts, j'étais pas endormi, j'étais vraiment prisonnier de cet échange d'identité. Et ça m'a fait peur, ça m'a fait extrêmement peur, parce que je me demandais ce qui m'arrivait. On se demande si on n'est pas devenu fou, si on est bien fait pour ça, si on a la stabilité émotionnelle qu'il faut ou pas. Et finalement, c'est un psychologue qui m'a rassuré sur ce point, quand je lui en ai fait part, qui m'a simplement expliqué que c'était une réaction tout à fait normale une réaction inconsciente de digestion, en quelque sorte, de cet acte de tuer, qui était appelé un phénomène d'identification. Donc on se met à la place, c'est de l'empathie finalement, on se met à la place de sa victime. Et moi, j'étais à la place des deux insurgés qui étaient allongés sous le rocher et que j'ai tué ce soir-là, enfin cette nuit-là. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si j'ai réagi de cette façon-là, ce jour-là, si j'ai eu quelque part tellement de mal à digérer ce premier tir à tuer, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, je pense que c'est parce que ce soir-là, je ne protégeais personne. J'ouvrais pas le feu pour protéger ma vie, parce que très clairement, je ne risquais pas ma vie à ce moment-là. Ils n'étaient pas en situation de combat. J'étais tranquillement sanglé dans mon siège, dans mon cockpit. J'avais ce sentiment d'invulnérabilité. Et ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais j'écrasais une fourmi avec le pouce. Voilà, c'était cette sensation de toute puissance. Et je tuais deux personnes qui n'avaient rien pour se défendre à ce moment-là. Alors même que personne n'était en danger. Je me suis rendu compte plus tard que tous les autres tirs, je protégeais soit mes ailiers en hélicoptère, soit ma propre vie, soit la vie de soldats français au sol ou de soldats afghans. Mais parce que je protégeais des vies, j'acceptais de tuer de façon plus sereine, quelque part. Je parle d'inconscient, là. C'est jamais quelque chose de plaisant, et il y avait toujours quelque chose, une réaction derrière, une sorte de malaise, parce que tuer n'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Mais à chaque fois, c'était nécessaire. Il m'est arrivé une fois, en protégeant des civils afghans et des policiers afghans qui étaient bloqués dans leur village par des insurgés, on m'avait désigné la position des insurgés, mais je ne les avais pas vus directement. Et mes tirs avaient totalement calmé la situation. Plus tard, on m'a annoncé que j'avais fait 13 morts. Mais cette information-là, parce que d'une part je protégeais des vies et que d'autre part je n'ai absolument rien vu du résultat de mon tir, cette information elle a glissé sur moi comme si on m'avait annoncé qu'un chat s'était fait écraser la veille à New York. Enfin, j'exagère un petit peu, mais parce que j'avais protégé et que je n'avais rien vu, quelque part, alors que ces deux hommes-là, je les voyais directement, je voyais leur chair se déchiqueter. Voilà, c'est la vision de la mort, elle est vraiment importante dans la réaction qu'on a après. Et puis cette attaque pure, sans protéger personne. Voilà, c'est les deux éléments qui, pour moi, sont source d'un malaise plus profond que ça ne l'est d'habitude. J'ai jamais eu peur de devenir drogué à la guerre. Mais en fait, je le suis devenu et je l'ai découvert. Quand j'étais en Libye, on enchaînait les raids contre les forces du colonel Kadhafi. Et à chaque sortie, on détruisait plusieurs véhicules. Et à un moment, on a fait une pause opérationnelle, tout simplement parce qu'il y avait la pleine lune. Et donc, on n'avait plus cette sécurité de la nuit noire pour aller faire les frappes. On s'est arrêté quelques jours. Et je me souviens avoir dit à mon ailier en tigre, je lui ai dit, mais... C'est bizarre, mais là, je ressens le besoin d'y retourner et de revoir des véhicules exploser sous mes obus. Et il me dit, mais moi aussi, j'attends que ça me manque. Et on s'est dit, mais c'est horrible, c'est quoi cette réaction? En fait, il y a une réelle addiction à la destruction. Enfin, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Alors, on l'écarte facilement, parce qu'une fois qu'on en a pris conscience, voilà, la raison prend le pas. Mais bizarrement, un an plus tard, quand je suis retourné en Afghanistan, un an après la Libye, je me suis retrouvé une nuit dans les mêmes conditions qu'en Libye. Et dans ma caméra thermique, je vois une habitation du même type que celle qui était en Libye, avec des pick-up autour. En fait, je me suis retrouvé en Libye, et j'ai eu envie de détruire ces pick-up. C'est revenu d'un coup, et j'avais la main sur la poignée d'armement, j'avais le doigt sur la détente. Je me suis surpris à faire ce geste. C'était automatique. Il n'y avait absolument rien, il n'y avait aucune menace, il n'y avait rien. C'était mécanique. C'est un peu puéril, c'est la découverte de la puissance. C'est comme l'enfant qui découvre qu'il peut tuer des insectes, qui va prendre un plaisir à le faire. C'est un peu ça. Et c'est découvrir la puissance qu'on a, la puissance de destruction. C'est la forme de jouissance qui peut sortir du duel guerrier. Et donc, plus on le fait, plus on peut y être comme une drogue, on peut y être attaché, donc avoir envie de recommencer, tout simplement. Ça reste mon métier. Donc c'est normal qu'on soit un peu attiré par ça. Est-ce que j'ai envie de tuer à nouveau ? Non. C'est pas une envie, ça. Mais c'est un peu paradoxal, en fait. On est... Un jour, quelqu'un m'avait dit, finalement, nous, les militaires, on rêve qu'une seule chose, c'est d'aller faire la guerre, et une fois qu'on l'a fait, on en cauchemar toute notre vie. Et certains s'en relèvent pas, donc... C'est assez paradoxal. Parce que là, on parle beaucoup de ce qui peut être un peu traumatisant, mais il y a aussi beaucoup de choses magnifiques, finalement, qui découlent du combat. Et dès que je retourne dans un régiment d'hélicoptères et que j'entends un hélico qui passe à proximité, finalement, c'est presque de la nostalgie. Ça me renvoie vers les bons moments. Il y a toutes les relations humaines qui sont absolument décuplées. Toutes les émotions sont décuplées par la présence de la mort, justement. Soit la mort qu'on défie, parce qu'on risque sa vie, soit par la mort qu'on donne ou qu'on voit, tout ça, ça décuple les sentiments et les relations qu'on peut avoir avec les autres, avec ses frères d'armes. Enfin, le terme frère d'armes, il prend tout son sens quand on le vit. On a une proximité avec les autres combattants qui est vraiment particulière. Parce qu'on vit des choses avec eux dont on sait que nous seuls pourrons les comprendre. Je me souviens avoir discuté avec des soldats des forces spéciales un jour près d'un baraquement avant une mission, et tout d'un coup il y en a un qui me demande, mais c'était vous l'autre nuit? En fait, l'autre nuit en question, on les avait sauvés d'un mauvais pas, et puis il me regarde et il me dit un simple merci. C'est pas grand chose, mais ce merci là il m'avait voilà, parce que ce merci là il était dit d'une telle façon, il voulait dire tu m'as sauvé la vie, gars. Et je savais pas quoi répondre à ça. C'était tout devient très fort, en fait. Tout devient. Alors il y a la fatigue qui se rajoute dessus parce qu'on dort très peu, donc je pense que ça augmente encore la sensibilité quelque part. Mais il y a ces moments où, descendant du Tigre sur le pont d'envol, je vais avoir l'autre chef de bord de mon ailier, et puis on se prend dans les bras l'un de l'autre parce qu'il s'est passé des trucs forts, qu'on est passé près, qu'on a été là l'un pour l'autre pour se protéger. Et il y a ces moments avant de partir en mission où on est ultra concentré, très tendu, et c'est pareil, c'est une poignée de main, mais cette poignée de main, elle a tellement de signification, tellement de force, comparé à ce qu'on peut au jour le jour, le matin, quand on se voit au café, qu'on se serre la main, c'est pas pareil. C'est... Tout est exacerbé par la mort.
Donc au mois d'août d'Afghanistan, et c'est arrivé, ça a commencé, je dirais, un mois et demi après. C'est un mal-être qui arrive, voilà, tout doucement. Dire, c'est pas un claquement de doigts, hein. C'est quelque chose, voilà, qui a été, je dirais, progressif. Vous voulez essayer le gong?
Allez-y.
Celui-ci, il est souvent. Enfin, moi, je l'utilise vraiment pour l'ancrage en tout début de séance. Voilà, pour que vraiment la personne s'ancre à la terre et soit ici et maintenant. Ou alors, vraiment, aussi, je mets la personne devant, où là, vraiment, toutes les vibrations vont venir percuter le corps, les cellules du corps. Et c'est pour ça que toutes ces vibrations viennent taper des engrammages, puisque dans notre vie, tous les chocs émotionnels, on les stocke inconsciemment, ils sont stockés à l'intérieur de nous, et justement ces vibrations viennent les percuter. Et c'est pour ça que je suis venu au bol tibétain. Moi, ça m'a remis en conscience l'embuscade que j'avais vécue en Afghanistan. Et ça a été voilà, très libérateur, puisque toutes les nuits, je me réveillais avec cette image-là, avant le départ pour l'embuscade. Et suite à cette expérience que j'ai vécue avec les bols tibétains, j'ai été libéré.
Ce jour-là, on me désigne. Toi, tu pars avec les gars des forces spéciales. Je me retrouve avec mon binôme dans un véhicule léger de reconnaissance et d'appui. Un P4, comme on dit. Sans aucune protection, puisqu'on est à l'air libre.
Et nous deux, on n'était pas des forces spéciales, donc voilà, on s'est retrouvés un petit peu démunis face à la situation, parce qu'on ne savait pas quelle était la procédure à suivre.
On attend de connaître l'ordre du convoi et on se range bien gentiment en quatrième position. On a intercepté les communications radio des Talebs de la vallée. Leur chef prévoit de se réunir. On décide de partir au petit matin pour les surprendre. Ils sont dans un village au fond d'une passe. À nous de trouver précisément dans quelle maison. Pour vous donner une idée, une passe, c'est comme un cirque entouré de montagnes aux falaises abruptes. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul passage pour entrer et sortir. Si les Talebs veulent nous coincer, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est entré, ils se postent au goulot et ils n'ont plus qu'à patienter. La souricière, quoi. On se met en route avec ce genre de pensée. On évite soigneusement de les partager. Mon binôme affiche un air serein.
On s'est retrouvé là, puisqu'au départ, c'était une mission de renseignement auprès de la population, en faisant un petit peu d'humanitaire, puisqu'on avait des docteurs avec nous et des médicaments. Et puis, bon, il y a eu des messages qui ont été interceptés par la guerre électronique. Et bon, à ce moment-là, notre mission s'est focalisée plus sur ce rassemblement de chefs talibans que sur la mission sur laquelle on était parti au départ, quoi.
Notre expert en guerre électronique intercepte de plus en plus de messages radio insurgés. Il localise le point d'émission sur les hauteurs. Il faut traverser la plaine si on veut s'en rapprocher. On demande un appui aérien qui n'est pas accordé. Les hélicos Apache américains interviennent sur un autre front. Mais le capitaine ne veut pas abandonner si près du but. Reste alors deux possibilités. Soit on passe la nuit dans un bivouac de fortune en sachant que les Talebs nous surplombent, c'est risqué. Soit on prend la route, ce qui n'est pas moins périlleux parce que le soleil décline derrière les montagnes. Le capitaine décide, on prend la route et on continue à chercher.
Le but c'était, voilà, je suppose que c'était, parce que bon, j'étais pas dans l'autosphère, je suppose que c'était pour les localiser et après... Point d'interrogation. Le seul truc qu'on a fait, c'est suivre le mouvement, quoi. Il n'y a pas de place pour réfléchir. Réfléchir, c'est désobéir. Après, c'est une histoire de confiance avec les chefs.
Avec mon binôme, on ne sait plus quoi penser. On se regarde. C'est à ce moment-là qu'on se tape dans la main pour se souhaiter bonne chance ou... Ça va aller.
On s'est dit une phrase.
Je sais plus. J'ai oublié.
Et cette phrase, je l'ai oubliée.
La phrase est là, pourtant, je pourrais presque la retrouver, la dire. Le sortilège s'arrêterait enfin, mais non, je suis noué, ça vient pas.
Je sais plus ce qu'on s'est dit.
Le rêve tourne en boucle. Vision obsessionnelle. Mon binôme et moi. Bonne chance, non. Bon courage. On se tape dans la main. Le rêve repart pour un tour.
C'était toujours ce point de départ avec, quand on se tape dans la main, et ce regard qu'on s'était lancé en disant « bon, mais là, on n'a plus le choix ». Ça part de là et après, chaque nuit, c'était une histoire qui est nouvelle, qui germait, quoi. Mais tout ça avec un point de départ, toujours le même, ce réveil, avec cette image-là de se taper dans la main et allez, on est parti, quoi.
On traverse un village. On s'arrête pour prendre du renseignement. Nada. Un deuxième village, là, ambiance pesante, ça sent la mort. L'air est saturé d'électricité. Un homme bat la frime fixe. Les villageois parlent fort, on les sent hostiles. Ils se regroupent autour des véhicules, envahissants. Ils nous font comprendre qu'on n'a rien à faire là. Vaut mieux éviter de les mettre en colère. On n'est qu'une trentaine. On fait pas de vieux os. Avant de partir, on apprend par le renseignement radio que les talebs sont juste au-dessus de nous. Le risque est imminent. La tension monte d'un cran. On repart, on n'emmène pas large. On reprend la route en suivant le Talveig. C'est le lit d'une rivière asséchée. Ça fait une sorte de piste jaune-grise, un peu plus carrossable que le reste. Distance de sécurité, 50 à 100 mètres entre chaque véhicule pour éviter d'être dans le rayon de l'explosion au cas où l'un de nous déclencherait une mine. On n'a pas roulé plus d'un kilomètre qu'on reçoit l'ordre de stopper net. Le convoi s'arrête. Personne ne sort des véhicules. Le chef nous explique à la radio que le traducteur vient d'intercepter une communication sur les ondes talibanes qui dit que 3 véhicules sont passés sans péter et ça sera pour le 4e. Notre convoi comporte 8 véhicules. Mon binôme et moi sommes en 4e position. On se regarde et simultanément nos yeux balayent la piste devant nous. Une chèvre, morte au milieu de la piste. Et cet homme qui vient de s'éclipser furtivement, comme une ombre. Il était là pour actionner la radiocommande de la bombe artisanale planquée dans le ventre de l'animal. Souricière. Le piège se referme sur nous. À partir de ce moment-là, tout va très vite. Les forces spéciales bondissent des véhicules et se déploient sur les côtés pour déloger les talibans planqués derrière les rochers. Très rapidement, j'essuie les tirs des insurgés postés sur la crête. On n'a pas les moyens suffisants. Ils ont l'avantage de la préparation et de la hauteur. Échange de coups de feu. On se replie. Ça tire de partout. On se prend 2 roquettes à 30 mètres devant et derrière. Faut qu'on sorte de cette passe à tout prix. Le temps qu'on rejoigne la sortie, les talibs nous arrosent à la mitrailleuse.
Donc ça a duré, je sais pas. Il n'y a plus de notion de temps dans ce moment-là. C'est un peu cet état que je, entre guillemets, que je retrouve méditatif. C'est-à-dire que pour moi, ça a été fluide, limpide. C'est un état où, peut-être pas invincible, mais ça devient instinctif, intuitif. Le mental ne peut pas, parce que si on commence à réfléchir, c'est fini.
Mon binôme roule à toute berzingue. On sort de la piste. Le véhicule fait des sauts de plusieurs mètres. Je me cogne de partout. Pendant qu'on roule, je vise la crête avec mon FAMAS. Les balles des insurgés sifflent au-dessus de nous. Les doigts crispés sur la détente, j'arrose les alentours au hasard. Je vise toutes les ouvertures de portes et de fenêtres du village qu'on traverse.
C'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, je pouvais ne pas en sortir. Hein. J'ai pris conscience à ce moment-là. Et c'est vrai que les premières pensées ont été pour mon épouse et mes enfants. C'est très très bref. Ce défilement de la vie, c'est vraiment un condensé qui doit aller tenir dans, je sais pas, 5-6 secondes. C'est très, très rapide. Et après, une fois qu'on est parti, on est, voilà, se met dans cette dynamique de survie. Et on met en éveil tous nos sens, je dirais, animal, qui ressort et qui est encore présent. Voilà, l'hypervigilance, ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal à évacuer, de cette hypervigilance et de contrôler tout l'environnement qui est très proche. Quoi. La foule, les feux d'artifice, ça a été une horreur. Le bruit de voiture, de claquement de portière, ça vous met en alerte et ça réveille tous ces souvenirs-là. Sur la route, je ne supportais pas les véhicules devant et derrière moi. Quoi.
Pourquoi ?
Donc il fallait que je roule le plus vite possible pour éviter les RCIED ou les tirs des talibans qui sont dans des camions, dans des véhicules. Quoi. Donc ça a été terrible au début. Quoi. C'est instantané. Moi, la vision, c'est je repars là-bas directement, quoi. En Afghanistan, quoi. Moi, je revois sur le camp à Spinboldak. Parce que c'est quand j'étais à Spinboldak qu'il s'est passé l'événement. Voilà. La liaison, elle se fait instantanément, quoi. Le cerveau, il dit, hop, oh, t'es là et tu mets-toi en survie, en état d'alerte.
La scène s'étire indéfiniment, il n'y a plus de temps, ça ne s'arrêtera plus, je suis pris dans ce tunnel de sensations en suspension, les balles fusent en traçantes lumineuses dans la nuit, claquement des armes à feu, odeur âcre de la poudre. Je veux me réveiller mais j'y arrive pas parce que j'ai pas retrouvé la phrase clé, la phrase fantôme. Tape dans les mains, bonne chance, non, ça va aller, je sais plus. Je continue à tirer. Je continue à tirer.
Il a fallu que j'aille au bout de ce processus-là, de l'Afghanistan, où là, vraiment, il y a eu la mort de très, très, très près, pour dire peut-être que arrête l'armée, c'est plus fait pour toi. Moi, j'ai arrêté l'armée, je suis parti le lundi 6 avril 2009. Voilà.
C'est resté...
Ah oui, il y a des empreintes comme ça. On peut oublier certaines choses, mais certaines d'autres, elles restent aggravées. Voilà, donc c'était lundi. Donc j'ai été arrêté donc, le 6 avril. Je suis allé voir mon toubib. Je lui ai dit, soit vous m'arrêtez, soit je me tue. Un sous-officier. Donc elle m'a arrêté pour un burn-out au départ. Et à partir de là, elle a contacté quand même le service médical, et eux, ils ne se sont pas bougés, quoi. C'est quand je suis arrivé au bout des 90 jours, donc 3 mois, que j'étais convoqué parce que mon épouse était en arrêt aussi. Donc là, ils se sont réveillés. Mais sinon, ils s'en foutaient royalement, quoi. Le médecin qui m'a reçu là, il a failli ramasser le bureau sur la tronche, parce qu'il me prenait de haut, et à ce moment-là, il m'a envoyé le psychiatre. Et c'est quand je suis allé à l'hôpital Robert Picquet à Bordeaux, que là, il m'a dit, vous êtes atteint d'un syndrome post-traumatique. Et je dis, c'est quoi ça? Je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais même pas, je ne savais même pas ce que j'avais. Et c'est là où on m'a diagnostiqué. Et à partir de là, j'ai pu faire un travail beaucoup plus en profondeur. Mais après, bon, le psychiatre que j'ai eu, ça ne me convenait pas. On m'a donné quoi? Séroplex, Lysanxia, Xanax, toute la clique, là, tous ces trucs-là qui vous abrutissent. Et donc, en parallèle, j'avais le conventionnel et le non-conventionnel. Donc moi, j'ai vu que ce qui m'apportait le plus, c'était le non-conventionnel. Donc tout ce qui était énergie, tout ça. Parce que la sophrologue, elle m'a dit, la première fois que je t'ai vu arriver, elle m'a dit, j'ai cru que tu étais un zombie. Avec le temps, ça... Puis on travaille dessus, on arrive à le minimiser, mais c'est toujours présent en nous, quoi. Et ça peut arriver d'aller jusqu'à l'extrême, quoi.
Mais vous pouviez aller jusqu'où, en fait?
Ben, jusqu'à l'extrême limite. Hein. C'est là où, ce que je disais au psychiatre, je peux aller être dans le don de moi pour sauver, donner ma vie pour quelqu'un, jusqu'à l'autre extrémité, de prendre une vie.
C'est-à-dire?
Ben, jusqu'à donner l'amour, voilà. C'est voilà, il y a ces deux limites là. Donc je sais qu'il faut être au milieu, mais dans un état où à partir du moment où il y aura la vie en jeu, ma vie en jeu ou quelqu'un de ma famille, aller à l'extrémité, j'aurais pas un problème de conscience à ce moment-là, même en France. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai expérimenté à l'étranger? Voilà. C'était une question restée sans réponse du psychiatre.
C'est-à-dire que vous vous sentez encore capable de tuer aujourd'hui?
Ah mais je ne me sens pas, je suis capable. Je suis conscient que si on vient atteindre mon physique ou quelqu'un de ma famille, je sais jusqu'où je peux aller. Et jusqu'où j'irai. Oui. pour la purification des bols tibétains, c'est avec de la sauge. Voilà, puisque la sauge a cette vertu de purifier. Plus ça va, et plus j'ai l'impression de perdre la mémoire. Donc j'en ai parlé à mon docteur généraliste. Et donc c'est pas Alzheimer. Voilà, donc ça c'est déjà ça. Mais effectivement, ça peut être, comment dire, un travail qui se fait du subconscient à balayer un petit peu, voilà, toutes ces poussières de façon à laisser quelque chose de nouveau naître. Donc là, ce sont des feuilles séchées de sauge que j'ai mis dans la coquille. En toute honnêteté, je me réveille plus les nuits. J'ai essayé de ranger tout ça dans un tiroir, dans une commode. C'est bien rangé à sa place. Et voilà. Donc, j'ai fait un bon bout de chemin, mais le chemin est encore long. Donc, voilà. Après, c'est assez fort quand même, commodeur. Donc voilà, donc après, c'est de passer dans l'instrument avec la fumée, puisque la fumée va venir purifier. Voilà. Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis plus un sauveur. Ça, je l'ai compris. Ceux qui vont, qui s'engagent dans l'armée, la plupart, c'est pour être un héros. Et le héros, c'est le sauveur. Voilà, donc je passe tous les bols. Voilà, ça, c'est juste pour la purification. De tout ce qui peut être dans le monde invisible. Ça vient du chamanisme. Voilà, c'est comme ça qu'ils purifient les maisons, tout ce qui a purifié, voiture, tout ça, on peut, voilà. De temps en temps, on passe pour lever les mauvaises ondes. Donc aujourd'hui, je ne suis plus un sauveur. Je ne suis plus un sauveur.
Les flashs viennent avec des frissons dans la nuque. Je ne suis plus là pendant un moment. Absent. Personne ne sait où. On me parle, mais je n'entends rien. Quand je reviens, je ne sais plus où je suis. J'ai décroché de la réalité. Ma mère dit que j'ai la tête en l'air. Aujourd'hui, ça m'arrive encore de les voir. Mais les yeux sont là moins souvent. Je les ai affrontés. Je respire profondément. J'attends qu'ils s'estompent. Comme le brouillard se dissipe. Comme un handicap. Ça fait partie de moi. Il va falloir apprendre à vivre avec.
Dans les rêves des soldats avec Brice Herblanc et Frédéric. Lecture, Sylvain Laureau, Olivier Martineau, Yann de Monternot, bruitage Patrick Martinache, création musicale Clean After Use et Frédéric au bol tibétain. Prise de son Raymond Albouy et Pierrick Charles. Mixage Pierrick Charles. Coordination Inès De Bruyne et Irène Omelianenko. Réalisation de Marie-Laure Ciboulet. Un créationnaire de Pauline Mocor.
« Cette création est disponible en podcast sur le site de Création On Air. Demain, à 23h, vous retrouverez Hélène Azéra. Mercredi prochain, une nouvelle théorie des humeurs par Aurélie Tian et Christine Robert. Jeudi, Je vais mourir à la fleur de l'âge par Éric Cordier et Nathalie Salle. Et tout de suite, ce sont les nuits de France Culture avec Philippe Garbi.